je vais me faire un sudoku. Bref, à ceux qui veulent tout faire, sauf le ménage. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon entretien en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 19 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous. On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Les drôles de dames arrivent dans un instant. Il est 20h01, vous êtes sur RMC.
RMC.
32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. Allez, j'ai perdu.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Fabinho qui est moins la lance de lancement. La rampe de lancement.
Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Et l'After est là, comme chaque lundi soir et comme chaque lundi. Vos drôles de dames sont là. On vous attend au 32-16 sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot avec vos questions. Aujourd'hui, on va faire une spéciale promue et reléguée dans l'After avec nos drôles de dames. Il a vécu son week-end le plus riche en émotions depuis le baiser de la mort infligé à sa bien-aimée lors d'une partie d'échecs endiablée entre le retour en boulie de Sampaoli, la défaite de l'Union de Berlin alors qu'elle menait 2-0 ce week-end et la montée inédite et inespérée de Kiel. Notre Polo est en mode rock and roll ce soir. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Comme l'Atlante, il se cherche une toison d'or. Comme le Bologne de Motta, il a un goût de sucre glacé. Mais surtout comme un ouragan qui passait sur moi. Il est dans l'élite. Bonsoir Yoann Crochet.
Carrément, bonsoir à toutes et à tous.
Salut, t'es où ou pas?
Ouais, c'est bon, hein. Bon travail.
Magnifique, ouais, j'ai un papa, ouais, je sais. Comme Grenade, il est explosif, parfois il dégoupille, mais ça reste une bombe. Moins glam, comme on dit à la Corogne, il vit, respire comme des porcs. Salut Fred Hermel.
Hola chicos. Alors, c'est vrai qu'on va parler du
Porto. On va parler du déport. Alors j'allais dire super déport, c'est plus super, mais ça commence à remonter. Et tu vas revenir sur le calendrier aussi de l'annonce de Mbappé au Real Madrid.
Ah bah oui. Hey.
Et comme Arsenal, il est canon. Comme Guardiola, il met du pep dans notre vie. Comme United, il nous rend red débiles. Salut Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Ça va ou
merci,
quoi?
Merci, très beau. T'es en forme, hein. Franchement,
oui, on fait ce qu'on peut, effectivement. Et puis à 22h, Gilbert Bribois sera là avec sa team. Salut Gilbert.
Salut les gars.
Ça va?
Vous savez que le foot français est au bord de la banqueroute.
Peut-être ça va parler des droits télé, je sens.
Ah bah oui. C'est du jamais vu. Personne. On est quand même mi-mai, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on dit à la DNCG? Comment on recrute? Enfin, pardon, vous en avez conscience, monsieur Villas?
Comment dirais-je
ouais, c'est pas le jackpot, monsieur Lam. Bon, on fera le point là-dessus ce soir. Et puis les trophées UNFP, évidemment, ouais, comme d'habitude. Ouais.
En fil rouge, hein, d'ailleurs.
Mmh, ouais. Elsner sera-t-il élu meilleur entraîneur de Ligue 1? Bah, il est dans les domaines.
Tu as raison.
Voilà. Il a peut-être kiffé, Johan. Oui, il est dans les.
Ah, bien sûr,
oui,
qu'il est dans les nommés. Oui. Bah, attends, c'est fou ce qu'il a fait quand même.
Ouais.
Oui, il a maintenu l'œuvre avec une équipe en bois, c'est pas mal quand même, non?
Ah oui.
Bon, avec le meilleur directeur sportif de France, mais ça, c'est une autre histoire. Il y aura qui avec toi ce soir, Gilbert?
Daniel Riolo et Florent Gautreau.
D'accord, parfait.
On va revenir sur évidemment le clash Nasser, ah, oui. El Relaifi, Kylian Mbappé, révélé par le Parisien. Et puis le départ de Mbappé, hein, ça fait beaucoup parler ce week-end. Hier soir, on n'a pas eu le temps, parce que c'était pas un match à suspense finalement, Toulouse hier soir. Donc on en parlera ce soir de Paris. Et puis Flo veut parler du podium de Ligue 1. Il estime que les meilleurs clubs sont sur le podium, ceux qui jouent le mieux, qui jouent le plus, qui sont les plus méritants.
Voilà, à partir de 22h.
Pas non plus l'avis de l'année, mais
ah, c'est flou, quoi.
On va lui donner voilà, on lui donnera sa chance.
C'est, non, mais c'est efficace, tu vois, c'est classe. Voilà. C'est pas, voilà, c'est pour ça qu'on l'aime, notre Flo. À partir de 22h, on vous attend d'ores et déjà au 32-16. Et puis, je vous rappelle également que la roue RMC est de retour. Cette fois, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros par jour, soit donc 100 000 euros en jeu au total. Dès que vous entendrez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant ROUE, R-O-U-E, par SMS au 732-16. Voilà, ROUE au 732-16. Alors restez bien à l'écoute d'RMC, ça peut tomber n'importe quand. 5 000 balles à gagner quand même. C'est pas mal, non?
J'adore
le jingle. Le bruit.
J'ai l'impression que c'est, tu vois, que c'est qu'on est... Je sais pas, on est au Moyen-Âge, quoi. Tu
vois, ouais, il y a un peu ça, ouais. Notamment quand on te voit habillé comme toi, mon cher Fredo. Allez sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot, vous allez voir notre Fred avec ses jolies bretelles.
Décrire un peu.
Alors,
des bretelles.
Alors, déjà, sachez qu'il a perdu du poids, notre Fredo, mais vraiment, il a fondu, notre Fredo. Très élégant, très classe. Petit t-shirt moulant en noir avec des bretelles grises, un peu à l'ancienne.
Oui, voilà, c'est un petit délire que je me suis fait ce week-end. 17,50, ça, faut pas s'en priver.
Voilà.
Et en fait, j'adore.
Voilà. C'est quoi 17,50, ouais.
Ça
vaut pas plus, Fredo, on va pas se mentir.
C'est une bretelle, hein. C'est
Ah ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, t'as vraiment du bon matos, hein, mon Fredo.
Voilà, élastique et cuir.
Ouais, c'est chacun son délire.
Il y a Showtimer qui dit Fred et bretelles, j'adore.
Voilà, ouais. Et bah voilà.
Ouais. Sur la chaîne YouTube.
Allez, spécial premier relégué ce soir dans le Drôle de Dame. Sprint final dans vos championnats. Et on commence à y voir plus clair dans la course au maintien, mais aussi dans celle de la montée. On va débuter par une grosse surprise en Allemagne. Le champion des deux allemandes, de Zwei Bundesliga, sera déterminé lors de l'ultime journée. Quel qu'il soit, ce sera un champion des deux inédit. St. Pauli et Holstein Kiel sont les deux promus pour la saison prochaine. On va évoquer les Pirates d'Hambourg dans un instant, Polo. Mais avant cela, focus sur Kiel, qui va évoluer en Bundesliga pour la première fois de son histoire. Déjà, explique-nous, Polo, c'est où, c'est quoi ce club de Holstein Kiel?
Bon, ben alors, si on veut faire un peu de géographie, ben, vous partez de Strasbourg et vous voulez monter dans le haut de l'Allemagne, c'est à peu près le même nombre de kilomètres que si vous partiez de Toulouse et vous allez à Paris. Donc, vous voyez que c'est la ville, c'est en fait, c'est la ville la plus au nord de l'Allemagne. C'est, tu l'as dit, dans le land du Schleswig-Holstein, qui est un land où il y a à peu près 3 millions d'habitants seulement. Il n'y a que deux villes de plus de 200 000 habitants, dont Kiel, beaucoup très connu pour son handball plus que pour son football. Et là, évidemment, il y a des petites polémiques en Allemagne, parce que c'est un club qui date depuis plus de 100 ans, etc. Mais qui avait gagné un titre en 1912, tu vois, personne n'était né, évidemment, à l'époque. Et qui n'a jamais gagné de titre professionnel. C'est une véritable surprise, mais quand on suit la Bundesliga 2 depuis plusieurs années, on se rend compte que ce club qui est là depuis 7 ans dans cette division, bah, si tu veux, n'a jamais fini en dessous de la 11e place sur les 18. Et que déjà deux fois, en 2018 et 2021, ils étaient arrivés barragistes. D'ailleurs, j'ai échangé avec Johan là-dessus il y a quelques semaines. L'équipe de 2021, sous les ordres d'Ole Werner, l'actuel coach de Brême, méritait de monter en première division. Ce qui est sûr, c'est comme souvent, un club comme ça, il y a 13 ans, ils étaient en division amateur. Et c'est lorsqu'il se passe une chute dans le division amateur que les forces allemandes, et notamment économiques, se réveillent et on dit quand même, c'est pas normal. Alors historiquement, c'est extraordinaire, parce que c'est le 58e club allemand à accéder à la Bundesliga, à l'élite allemande. Mais c'est aussi le premier club qui représentera le Schleswig-Holstein. Jamais ce land n'avait été en Bundesliga. On disait souvent, il manque des clubs de l'ex-Allemagne de l'Est, etc. Mais là, en fait, c'est la première fois non plus, jamais un club qui avait réussi à ce niveau-là. Donc ils ont réussi un truc assez extraordinaire. C'est assez intéressant d'ailleurs, tous les médias qui en parlent, parce que depuis hier, t'avais une grande partie de choses assez que c'est génial, c'est le petit pousset qui monte et ceci et cela. J'ai revérifié en début de saison, il n'y en avait pas un seul qui les voyait dans les 3, les 5, les 8.
En même temps, il y a du lourd en D2 allemande. Je sais que t'aimes beaucoup la D2, il y a beaucoup d'historique, et l'année prochaine, peut-être encore plus que les autres années d'ailleurs.
Ah ben, si Cologne descend par exemple, ça va être fou. Justement, la grande surprise de cette année de Kiel, c'est que tu as d'un côté cette surprise parce qu'il y avait une restructuration de l'effectif en été 2023, même si le coach était là depuis 2021, etc. On sentait qu'il fallait un peu du temps avant d'essayer de refaire des choses dans cette division. Mais cette année, il y avait Schalke, il y avait le Hertha qui était tombé, il y avait Hambourg, évidemment, il y avait le Fortuna Düsseldorf qui sera barragiste, il y avait évidemment Hanovre et Nuremberg. Donc là, je parle de stade de 40 000, 50 000 places. Je parle même pas de Kaiserslautern qui remonte depuis deux ans en seconde division. Donc si tu veux, là, tu as un stade de 16 000
15 000 places, le Holstein Stadion, qui d'ailleurs
qui a plus de 100 ans aussi, d'ailleurs.
Il a plus de 100 ans. Il date de 1911. Il est rénové tous les 2-3 ans. Ils sont d'ailleurs sous condition pour évoluer dans ce stade en seconde division. Je sais même pas comment ça va se passer en première division. Apparemment, les nouvelles sont assez bonnes. Mais en gros, depuis que je suis ce club, il y avait toujours un projet, si tu veux, comme les infrastructures, d'amener soit un nouveau centre de formation, soit un nouveau stade, parce que celui-là, vraiment, il est un peu âgé, on va dire comme ouais. ça. Au niveau pour les médias, c'est pas terrible d'aller bosser là-bas. Et en fait, il devait être livré en 2024, mais en fait, ils ont toujours pas décidé. Donc peut-être que le fait d'arriver en Bundesliga, le nouveau stade va être accéléré, le décisionnel va arriver. Ce qui est sûr, c'est que ça va être très compliqué l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'après la fête de hier soir et des articles de ce matin, si tu veux, là t'en as qui commencent à sortir. Ah ouais, mais ça va être compliqué quand même, parce que leur capitaine Sander, il a annoncé hier qu'il partait. Ce qu'on savait déjà, il partait officiellement au Borussia Mönchengladbach. Sur le côté gauche, le piston, c'est Tom Rothe qui est prêté par le Borussia Dortmund. C'est un grand espoir, il sera pas là non plus. Donc si tu veux, on n'est pas là dans une logique où on garde l'effectif et on essaie de s'améliorer l'année prochaine. C'est que déjà, essaye de combler les trous qu'il va y avoir cette année. Donc ça va être extrêmement ouais. délicat. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y a une très belle ferveur.
Alors, un peu moins surprenant en revanche, autre promu, hein, donc on saura qui sera champion entre Kiel et Saint-Pauli. Ça faisait 13 ans qu'on ne les voyait pas en Bundesliga. Alors, club très engagé politiquement, hein, club d'extrême gauche, anarchiste, qui fait beaucoup de choses également hors football. Et ils sont de retour eux aussi en Bundesliga, Saint-Pauli, Polo.
Ouais, alors ça, c'est souvent le fameux concept qu'avait défini Saint-Pauli il y a maintenant plus d'une décennie, où on se posait la question, mais les journalistes disent, mais alors c'est quoi Saint-Pauli finalement, parce que vous êtes toujours en deuxième et parfois vous arrivez à monter, mais quand vous montez vous n'arrivez pas à vous maintenir, etc. Et ils disaient, nous, notre objectif, économiquement parlant, c'est de faire partie du top 25. Donc ça veut rien dire en fait quand tu regardes la Bundesliga, parce qu'il y a 18 clubs et puis il y en a 18 en seconde division, mais en fait, ça veut, quand tu réfléchis un petit peu, c'est quoi? C'est que leur vocation, c'est d'être un petit peu dans ce qu'ils font en politique, d'ailleurs en Allemagne, c'est d'embêter un peu tout le monde, d'embêter les gros, d'être dans le premier tiers de la Bundesliga et essayer de monter ou de finir troisième pour être barragiste. Ils ont évidemment du mal à rester en première division. Ce sera leur 9e saison en Bundesliga. Ils le méritent largement avec, là on est tout à fait dans le football moderne allemand, le coach Hürzeler, 31 ans, 2,15 points de moyenne depuis qu'il est à Saint-Pauli. C'est le digne successeur, j'ai envie, de Nagelsmann. Et tout à l'heure, je vous parlais d'Ole Werner qui est à Brême aujourd'hui. Il va donc logiquement arriver en Bundesliga. Et je peux vous assurer que ça fait très plaisir, parce que c'est le Milan Tor quand même, c'est 30 000 places. Lui aussi, c'est un stade qui est pas tout récent. Mais ça va donner à nouveau un côté un peu plus champêtre à la Bundesliga que les dinosaures ou les gros clubs qu'on voit habituellement. Très clairement, Saint-Pauli a plus de chances de se maintenir l'année prochaine que Kiel, et on pronostique quand même à Kiel un avenir à la Darmstadt, ce qui s'est passé cette année, quoi. Ça va être compliqué quand même.
Voilà. Polo, Hambourg a encore réussi l'exploit de ne pas monter.
Ouais.
Et je trouve que c'est un bon exemple. Tu sais, quand il y a des supporters un peu en colère avec leur club et qui disent, ouais, vaut mieux redescendre et puis reconstruire.
Ouais,
et
on va reconstruire,
on va repartir à zéro et on va remonter.
Bah, on commence à faire long la remontée.
Hambourg te montre que ça fait très longtemps qu'ils essayent et qu'à chaque fois ils sont dans les 4-5 premiers, que même parfois en cours de saison ils sont premiers ou deuxièmes, ouais. Et qu'en fait ils n'y arrivent jamais.
En fait, ils vont faire leur 7e saison en seconde division. Donc rappelons qu'Hambourg, c'est quand même un vainqueur de la Coupe d'Europe des
83
en 1983, etc. C'est un club assez historique du football allemand, qui manque d'ailleurs en Bundesliga. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ils ont dû passer 60 à 65% de leur temps sur le podium de Bundesliga de deuxième division depuis qu'ils sont redescendus. Et ils craquent toujours à la fin. C'est un truc de fou. Quels que soient les coachs, ça change tout le temps. Alors le public commence à en avoir ras-le-bol, parce qu'on a quand même plus de 50 000 spectateurs au stade, hein. C'est un stade de 57 000 places, etc. Et déjà, je trouve que c'est une excellente publicité pour la seconde division, parce que je vous ai cité les clubs, je vous ai pas cité les clubs, par exemple, de l'ex-Allemagne de l'Est, à plus de 20 000 spectateurs de moyenne et tout ça. C'est une vraie division. En Allemagne, on dit souvent que c'est la deuxième division la plus forte du monde. En tout cas, historiquement, c'était ça. Maintenant, avec le Championship, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est vécu comme ça, et c'est très, très compliqué de remonter. Et ceux qui montent ont vraiment 2-3 ans de difficulté à se maintenir. Mais il y a vraiment un entonnoir à ce niveau-là. Et Hambourg, cette année, on a été allaient chercher Baumgart, évidemment, qui avait fait des exploits avec Cologne, là, maintenant en Coupe d'Europe et tout ça. Mais les coachs, aussi talentueux soient-ils, ils n'y arrivent pas. Et tu vois l'effectif de cette année, tu ne sais pas pourquoi ils ne montent pas. C'était l'effectif le plus talentueux de seconde division. Et ils vont se taper une septième division. Le Nord va être très bien représenté avec Kiel et Sampdoria, mais pas celui que beaucoup de personnes voudraient, Hambourg.
Voilà, ce sera ni le Hansa Rostock qui va descendre d'ailleurs, hein, très certainement en Détroit.
Ça dépendra de la dernière journée.
En tout cas, ils sont mal barrés. Et ni Hambourg. Allez, on poursuit avec nos drôles de dames. Un spécial promu et relégué avec nos drôles de dames. On avait envie de changer ce soir. On s'est dit, tiens, dans le sprint final, on va faire apprendre des choses à ceux qui nous écoutent. Tiens, petite question, petit quiz surprise. Quel club compte le plus de présence en D2 allemande depuis 74-75? Bravo Polo, voilà, il est là. Devant le Sampdoria, 32e saison pour Greuther Fürth, on est dans le mail. Il est là, mon Polo. Faites gaffe, il y en aura pour tout le monde. Hein. Il y en aura pour tout le monde. Dans un instant, Johan Crochet va nous raconter l'histoire du grand retour de Como en Serie A 21 ans après ce club qui avait surtout collectionné les faillites et de retour dans l'élite du foot italien grâce à Fabregas, Thierry Henry, des Anglais et des Indonésiens. Explication juste après ça, tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Salut, c'est Anthony Morel, le monsieur tech d'RMC. Est-ce que vous savez que vous pouvez maintenant écouter RMC en DAB+? Le DAB+, c'est une petite révolution, hein. C'est l'équivalent à la radio de ce qu'a été la TNT pour la télé. Un son de meilleure qualité et sans coupure grâce au numérique, et surtout une écoute en continu. Plus besoin de changer de fréquence sans arrêt quand vous êtes en voiture, vous choisissez votre radio préférée par ordre alphabétique, RMC par exemple, et c'est terminé. Que ce soit sur autoroute ou à la maison, dans n'importe quelle ville de France, le DAB+, c'est l'assurance de pouvoir écouter RMC partout, tout le temps.
Salut, c'est Antoine Dupont. Mon truc pour récupérer rapidement entre deux matchs de rugby, le roller pur essentiel articulation et muscles. C'est mon coach antidouleur. Il est aussi efficace que naturel.
Le roller pur essentiel articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturel. Dispositif médical en pharmacie.
Et contre les courbatures, rien de mieux que l'huile de massage Arnica Golteri pur essentiel. Avant et après l'effort.
Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Uniquement chez Poltron et Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Miles Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199€ par mois. Arkana Business Miles Hybrid, 140 EDC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000€. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils sont à 2,29€.
Les abricots?
Eh oui, en ce moment, ils font la barquette de 500 grammes à 2,29€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous, hein.
Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 20%, soit 1,83€ la barquette de 500 grammes.
Patate à l'abri, mon coco.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 4,58€ le kilo, 3,66€ avec l'application Lidl Plus. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et les drôles de dames, Julien Laurence, Fred Hermel, Polo Breitner, Johan Crochet, 32-16 pour poser vos questions à vos drôles de dames. Ce sera à partir de 21h45, spécial premier relégué ce lundi avec nos drôles de dames dans cette première heure. Notre Polo a analysé Kiel et Sampdoria promu en Bundesliga. En Italie, Parme avait déjà obtenu son retour en Serie A il y a quelques journées. Et il est rejoint par Koum, qui n'a plus connu le top du foot italien depuis 21 ans. Ouais. Alors Johan, Koum, c'est une histoire assez folle, rien que d'ailleurs ces dernières années. Hein, quand on regarde un peu les hauts et les bas, et surtout les bas qu'a connu ce club, c'est assez fou quand même.
Bah, c'est un peu à l'image de beaucoup de clubs de deuxième division qui hésitent entre avoir un projet ambitieux pour monter, mais quand tu n'y arrives pas, ça devient tout de suite plus compliqué, et comment survivre économiquement en deuxième division, parce que la série B, Polo parlait de la deuxième division allemande, on parle du championship où il y a un vrai modèle économique possible. En série B, il n'y en a pas. Et donc, soit bah, tu vivotes et tu restes là 20 ans, et après tout, pourquoi pas, c'est déjà bien pour certaines villes d'avoir une équipe en deuxième division. Soit si tu veux avoir de l'ambition, il faut mettre beaucoup d'argent, espérer monter, et après essayer de s'inscrire en Serie A. Donc, Koum était passé au début des années 2000 en Serie A avec un projet un petit peu ambitieux, mais dès que ça redescend, Il y a des problèmes d'argent, et puis les propriétaires, ils ont plus trop envie, les anciens propriétaires italiens ont plus trop envie d'injecter de l'argent, etc.
Juste une petite, on ouvre une petite parenthèse là. Dans les années 2000, quand le club est en Serie A, c'est le proprio du Genoa, je crois, non, c'est ça qui a
racheté le club. C'est Enrico Preziosi.
Sauf qu'il y a eu conflit d'intérêts, il a fini par. Le club fait faillite une première fois déjà.
Non, mais alors, bon, Preziosi, c'est quand même très particulier. Preziosi, c'est.
Fabricant de jouets, non, c'est ça.
C'est Gioacchino Preziosi, les fabricants de jouets. Il y aurait plein de choses à raconter sur un jour un mec du club pris avec une mallette sur un parking des Gioacchino Preziosi pour acheter un match voilà.
Il y a des choses assez intéressantes,
t'as vu, la générosité est sans cesse condamnée.
Il y a des choses assez intéressantes toujours en Italie à ce sujet-là. Mais oui, c'était ça. Et Preziosi a rapidement laissé tomber Côme de manière assez désastreuse, mais comme il le sait si bien le faire, pour se concentrer sur le Genoa, qui était un peu plus sexy. Très grosse ville, Gênes, ça va être la quatrième, je crois, ville italienne. Donc c'est très, très gros. Et pour lui, c'était, ça avait plus de sens pour le business d'aller à Gênes. Mais Côme, la dernière saison en Serie A, donc c'est 2002-2003, avec un Français.
Benoît Coué,
ouais. Évidemment.
Ouais, c'est vrai.
Et avec un entraîneur qui est dans le club, l'autre club qui monte.
À Parme.
En Serie A, Parme, ouais. Fabio Pecchia était dans l'effectif de Côme cette saison-là. Et maintenant, entraîneur de Parme, il monte en Serie A. Et avec toutes ces faillites successives, on se disait, mais qu'est-ce que ça va devenir? Puis, c'était des trucs surréalistes. Hein. Le propriétaire racheté au bout de 6 mois, il n'y avait plus d'argent.
C'était la femme des siens, je crois, qui avait racheté.
À un moment donné, il y a la femme des siens, ouais. Mais on ne mettait plus d'argent. Puis, il y a des brouilles. Enfin, c'est l'économie du football italien. Et pourquoi beaucoup de clubs, d'ailleurs, font faillite en Italie, beaucoup plus que dans les autres pays. C'est aussi pour ça. Et ils ont été rachetés donc par un. Alors c'est entre les comment ça s'appelle les poupées russes l'une dans l'autre société l'une dans l'autre etc les holdings etc mais en gros c'est l'un des plus gros fabricants de cigarettes au monde indonésien les frères Hartono qui ont récupéré le club fortune estimée à environ hein, on n'est plus à quelques milliards à ce niveau là mais 40 milliards d'euros
ah, c'est pas mal
donc c'est plutôt pas mal ils peuvent en faire un très beau projet et en plus on en discutait juste avant que de revenir à l'antenne mais l'Italie offre une très grande attractivité pour beaucoup de propriétaires étrangers, c'est le tourisme. Ouais. Et dans beaucoup d'endroits en Italie, vous prenez Rome, c'est des Américains, la ville éternelle. Vous allez à Milan, chinois et américain, la ville de la mode et ville ultra-cosmopolite internationale. Vous allez à Côme, donc, le lac de Côme, les grands lacs du Nord, exceptionnel.
Florence.
Vous allez à Florence, c'est un Américain, la ville de l'art, la Toscane, on a tous les images de la Toscane, de même tout simplement de
Florence. Film américain,
vous allez à Venise, c'est un Américain, la ville de Venise. Vous allez à Naples, le Vésuve, alors ça reste...
Alors là, c'est De Laurentiis.
C'est De Laurentiis, mais vous avez toutes les
images. C'est un Américain dans l'âme.
Pompéi, Naples, le Vésuve, etc. Vous allez à Palerme, le City Group, la Sicile, etc. Donc,
mais ce que tu veux dire, c'est que les investisseurs qui viennent en Italie ne sont pas des mecs qui s'achètent une danseuse, qui perdent de l'argent, ils viennent pour gagner de l'argent.
Mais,
parce qu'on sait que certaines personnes achètent des clubs en sachant qu'ils vont perdre des sous.
Ça existe très peu maintenant, sincèrement, pour en connaître pas mal des propriétaires. Ça existe très vite des propriétaires étrangers, pas qu'en Italie, mais dans beaucoup de pays.
Ça, c'est vraiment un débat à faire parce que je trouve ça extraordinaire. Quoi. L'histoire d'acheter une danseuse, le football d'avant, est-ce que maintenant ça change? Est-ce que même en Italie, tu vois, ça change en gros? Est-ce qu'il y a encore une césure?
Est-ce que De Laurentiis, il n'est pas encore dans ce, dans ce postulat-là? Un peu à l'ancienne, non? Il se fait plaisir.
Un peu trop à l'ego, pour le coup. Lui, il fonctionne beaucoup à l'ego et à la colère. Donc des fois ça marche bien, des fois quand il appuie sur le bouton rouge, il se passe des choses super sympas, il fait tout sauter mais derrière il y a des trucs bien. Des fois c'est un peu plus compliqué.
Il perd de l'argent De Laurentiis ou pas?
Non, il en gagne.
Même
les supporters napolitains à un moment donné quand il y avait des très gros conflits, donc c'était avant le Scudetto de l'année dernière et avant même l'arrivée de Spalletti, donc fin 2010, début 2020, ils accusaient De Laurentiis de se servir du Napoli pour renflouer les caisses de sa société de production de films.
Ah oui, donc voilà.
Le Napoli est un des rares clubs en Italie qui est bénéficiaire de manière assez régulière, pas à chaque fois, mais qui est dans le vert de manière assez régulière.
Juste pour revenir à Côme, parce qu'on parle de ces proprios indonésiens qui sont les actionnaires majoritaires, mais en actionnaire minoritaire, il y a un certain Thierry Henry, et puis il y a l'entraîneur aussi, c'est quand même assez fou, c'est-à-dire Fabregas, ancien de Monaco lui aussi.
Qui est aussi actionnaire pour le coup.
Alors qui est actionnaire minoritaire, qui était entraîneur adjoint, qui est devenu entraîneur principal et qui fait monter cette équipe finalement en Serie A. C'est assez fou comme histoire ça aussi.
Et en plus, je trouve que ça résume assez bien le territoire parce que. À Côme, pour ceux qui sont déjà allés au lac de Côme, mais on pourrait étendre au lac de Garde, au lac Majeur, qui sont les autres grands lacs, le lac de Lugano aussi, dans la région. Vous faites le tour des lacs, vous avez des propriétés de dingue. Et à peu près toutes les stars du cinéma, de la musique, du sport ont des villas au bord de ces lacs-là. Donc le côté, il nous faut des stars aussi à Côme,
ouais.
Pour vraiment répondre à ce qu'est l'environnement de cette ville-là et de la région. Je trouve que ça fonctionne bien avec du coup Henri et avec Fabregas qui a été... Alors lui c'est compliqué parce qu'il a été... D'abord il vient comme actionnaire minoritaire et joueur.
Ouais.
Ensuite on lui donne la Primavera. Donc l'équipe de réserve, les U19, pour se faire un petit peu les os comme entraîneur. Il devient entraîneur principal, mais il a une dérogation parce qu'il n'a pas tous les diplômes. À la fin de la dérogation, la Fédé fait comprendre à Côme que ça ne peut pas durer comme ça. Donc ils mettent...
C'est un Anglais, je crois, non? Parce qu'il y a beaucoup d'Anglais aussi qui traînent au dos.
Il y a Dennis Wise, l'ancien joueur. Voilà.
Qui est le conseiller officieux du club, quoi.
Pas officieux, qui a un poste, qui est, je ne sais plus si c'est manager général ou directeur sportif, je ne sais plus quel rôle exactement, comment il est intitulé, en tout cas à Côme. C'est le joueur dont parlait Sir Alex Ferguson dans ses mots. Si Julien pourra me corriger si je me trompe, mais c'est quelque chose du genre Dennis Wise pourrait déclencher une bagarre seul chez lui.
il n'est pas tout seul dans sa tête, tu confirmes, Juju?
C'est ça, tout à fait, ouais. Et comme... c'est lui qui a ramené surtout Darren Dean, qui est l'agent de Fabregas, de Thierry Henry et d'autres, le fils de David Dean, donc l'ancien.
Ah oui, le fameux David Dean, bien sûr, oui.
Voilà, et c'est lui qui a ramené, via Dennis Wise, Thierry et Cesc au club.
Ah, mais dis-moi, le gallois Ozian Roberts, qui est officiellement donc l'entraîneur. Qui ressemble plus à un prénom, même s'il a été quand même adjoint du Pays de Galles, il a été adjoint de Crystal Palace, donc c'est pas non plus n'importe qui.
Ouais, de Vieira à Palace. Ouais.
Voilà, exactement. Mais on le voit, dans les roulés, vous regardez les matchs de Côme, qui est sans arrêt debout à donner les vrais consignes.
Il a le droit d'ailleurs, Fabregas. Même en étant adjoint?
Non, mais on l'autorise parce que c'est Fabregas.
Okay.
Mais alors, est-ce que Fabregas, l'actionnaire, si un jour il faut virer l'entraîneur?
Ah, mais il est minoritaire.
Oui, mais. Non, mais.
Il n'a pas de pouvoir.
Il n'a pas de pouvoir, mais. Non, mais quand même.
Enfin, en gros, c'est Wise qui décide, t'as compris.
Oui, mais... ça pose une vraie question quand tu es, quand tu es employé du club et que tu es actionnaire. C'est quand même.
Mais déjà, en tant que joueur, ça pouvait poser question, non, quand même?
Ah oui, oui. Ouais. Après, mais c'est encore plus avec entraîneur, parce que t'es plus sur un siège éjectable que t'es entraîneur.
Après, le seul truc que tu peux te dire à l'inverse, c'est que t'es tellement impliqué dans le club que tu dois tout donner pour bien faire.
Ouais.
Et parce que ça aura des répercussions aussi.
Et donc, tu peux tout virer toi-même en disant je suis pas assez bon
pour. Alors, Denis Wise est capable de le faire.
Des investissements.
Alors, en croire à Sir Alex Ferguson, il serait capable de se virer lui-même. Juste quand même, parce qu'il faut qu'on avance, mais bon, ça, c'est, on va dire, le volet, on va dire, un peu plus positif. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations suite à cette montée. On parlait du stade pour Kiel avec Polo tout à l'heure qui monte en Bundesliga. Ils sont pas complètement prêts à la Serie A à ce retour encore à Côme non plus.
Pas du tout, parce que le stade fait à peine 8000 places. Il y a eu 1000.
Il est collé au lac, hein.
Il est collé. Mais c'est dingue.
C'est impressionnant.
Si vous avez l'occasion d'aller à Côme, il y a notamment une tour, je me souviens plus le nom de la tour qui est juste à côté, vous montez en haut de la tour et vous avez en perspective le stade puis le lac. C'est
ça doit être très beau.
Faut y aller comme on y va amoureux. Si on n'est pas amoureux, c'est pas la peine, quoi.
Oh, ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup.
Il est amoureux de lui-même, il va tout seul.
Ouais. Effectivement. depuis que je croise Jérôme Rotten, j'ai un melon, moi, c'est incroyable. Blague à part.
La balle perdue.
Blague à part, mais le truc des stades, effectivement, c'est que à peine 8000 places, la règle en Italie. Pour avoir l'autorisation de la part de la Ligue et de la Fédé, c'est 12 500. Donc, on ne va pas les rajouter comme ça, les 4 500. Il est vétuste, en plus.
Surtout que les tribunes de plus, elles sont dans l'eau, quoi. Donc, c'est... Bah,
non, mais sérieux, alors, il n'est pas au bord non plus, mais il y a
quand même un flambeau.
Mais donc, il y a une vraie question là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le propriétaire indonésien veut moderniser le stade, veut clairement l'améliorer, faire en quelque chose de beaucoup plus moderne. Mais ça fait partie d'un projet. C'est pas simplement le foot pour ces Indonésiens-là. C'est comment réussir à faire une cité du divertissement dans un endroit d'exception comme Côme. Et le stade en ferait partie au même titre que l'équipe de football professionnel. Et juste pour préciser, il y a un joueur qui a décidé de revenir il y a pas longtemps, il y a quelques mois à Côme. Il s'appelle Patrick Cutrone.
Ah, qui était à Wolverhampton. L'attaquant, là.
Évidemment. Qui a été lancé à Milan et qui avait une carrière très compliquée, Fiorentina, etc. Ça se passait pas très bien. Il a accepté à 26 ans, qu'il avait quand même un statut important et des très gros salaires, des gros contrats, de redescendre en série B. C'est chez lui. Il est né à Côme. Pour aider le club à monter. Il a marqué 14 buts cette saison. Ouais. C'est le leader de cette équipe et il va pouvoir jouer enfin la Serie A avec son club de cœur.
Voilà. On est d'accord, Juju, c'est plutôt son niveau, la Serie B, non? Il est pas ouf comme joueur, Cutrone.
Ah, Cutrone. Bah ouais, il était parti trop jeune en plus. Mais il y a quelque chose dans le genre un peu besogneux, mais qui compte beaucoup, qui va marquer des buts, mais qui va aussi beaucoup donner pour son équipe. Il y a quelque chose d'intéressant à faire, mais il est parti bien trop tôt en Angleterre. Je suis même pas persuadé que l'Angleterre, même plus tard.
Non.
C'était le meilleur championnat pour lui.
Ouais. On va poursuivre, vous faire découvrir tous ces promus, les relégués dans les championnats de drôle de dames. On va aussi évoquer la course à l'Europe tout à l'heure en Italie, en Angleterre notamment. Et on passe à la minute musicale anglaise. J'en bafouille. On l'a ou pas? Est-ce qu'on l'a? Alors pourquoi ce choix, mon Juju?
Morrissey, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, Morrissey, tout seul. Ça, c'est une chanson tout seul de Morrissey, pas avec les Smiths, pour ceux qui aiment aussi le Morrissey avec son groupe.
On ne peut
groupe,
pas ne pas
Morrissey,
aimer les Smiths.
C'est vrai. Mon Polo, c'est un peu pour toi d'ailleurs. J'ai pensé à toi en choisissant ça.
Bah, ceux qui ne connaissent pas les Smiths ne connaissent pas la musique.
C'est vrai aussi. J'ai hésité entre choisir une chanson des Smiths ou de lui tout seul. Et de lui tout seul, finalement, parce que c'est un grand supporter de West Ham, Morrissey. Et je voulais parler un petit peu de West Ham parce que parmi les changements d'entraîneurs qui sont déjà effectifs, on en a beaucoup parlé, hein, dans tous nos championnats, il y aura beaucoup de changements sur les bancs de touche. Un dont on est certain qu'il va arriver, c'est le départ de David Moyes. Donc, pas besoin de revenir là-dessus, sur mon manque d'amour pour David Moyes, mais surtout l'arrivée de Julen Lopetegui, que Fredo connaît bien, qu'on connaît aussi bien en Angleterre parce qu'il était à Wolverhampton. On a parlé de Wolverhampton et de Coutrolet tout à l'heure. C'est donc acté que Lopetegui, après que les cousins de Johan, les ultra milanais, ont décidé qu'il n'était pas assez bon pour eux, bah, à West Ham, ils ont décidé que c'était assez bon pour eux. Donc voilà, on reverra Lopetegui en championnat.
T'aimes bien, toi, Julien Lopetegui, ou pas?
Ouais, moi je suis plutôt content. Moi je suis plutôt content. Je pense que c'est un très bon entraîneur, effectivement. Il était parti de Wolverhampton parce qu'à un moment.
Ah bah.
Pour un pari fait pendant la Coupe du Monde 2006.
Ah bah d'accord, ça commence à dater quand même. Hein.
Bah ouais. Excuse-moi, j'ai coupé.
Non, mais juste pour dire, voilà, il était passé de Wolverhampton de manière assez abrupte, juste avant le début de la saison, parce qu'il n'était pas trop content. On lui avait promis des choses, notamment dans le recrutement, qui n'allait pas arriver. Et donc, il n'était pas content, il était parti. Mais je pense qu'avec cet effectif-là, plus peut-être quelques renforts, il peut faire quelque chose d'assez intéressant à West Ham. Donc voilà, bienvenue à Lopetegui en Angleterre, ou bon retour en tout cas.
Ah, et Fredo, on en connaît un autre hein, qui doit un resto.
Ah oui, et puis un resto avec beaucoup de monde.
Ouais. C'est qui?
Bah, Julien.
Ah bah bravo.
C'est du temps où les Anglais étaient partout là, en finale et tout ça.
Oui mais là c'est plus le cas maintenant, on n'est plus partout. Et puis maintenant il y a
pour tout le monde.
J'avais parié avec Lopetegui que Zidane allait marquer contre l'Espagne à la Coupe du Monde 2006.
Ah ouais. Et il t'a gagné. Et il t'a
pas payé ton. J'attends toujours le
restant. On attend. We are waiting sur Lopetegui. Fred Hermel a révisé son galicien pour nous narrer le retour du Deportivo La Coruña.
Ouais, c'est un petit peu comme
en D2 d'Espagne. Hein. Oui, c'est un peu la même chose.
Tu peux te comprendre.
Ouais, je capte. Yo entiendo. Une ambiance folle, une histoire folle que va nous raconter tonton Fredo juste après ça sur RMC.
Génération After. Toute la semaine, dès 15h sur RMC. Retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Eric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Igwe, il y a Pierrot, venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présente la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à demain.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
À l'écoute des entreprises avec Logissimo de La Poste Solutions Business. Avec nous, Stéphane Parizeau, directeur de la plateforme e-commerce de Lugap. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelques mots sur votre activité et ses enjeux.
Eh bien, Lugap est la seule centrale d'achat public généraliste en France et avec son service Ugap Pack Service Plus et ses plus de 12 000 références en ligne, on avait besoin d'organiser ce flux logistique avec une livraison garantie sous 3 à 5 jours.
Alors, vous avez retenu Logissimo. Pourquoi?
Tout simplement parce que Logissimo répond parfaitement à nos attentes de logistique sur mesure et bien sûr dans le respect de nos valeurs environnementales et sociales.
Anthony Catillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Logissimo. Parlez-nous du dispositif déployé.
Alors, nous avons déployé une solution personnalisée avec stockage et préparation de commandes, oui. Gestion des transports jusqu'à 3 tonnes et une solution numérique connectée pour un suivi en temps réel.
Très bien. Et en quoi êtes-vous en phase avec les valeurs RSE de Lugap?
Par notre politique de décarbonation des transports, comme nos livraisons en véhicule électrique ou en mode doux, et bien entendu par notre modèle social.
Parfait. Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur laposte.fr/Logissimo ou au 3634.
Merci.
Vous écoutez
RMC.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise.
Et ça, c'est mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
RMC jusqu'à 22h. Ouais. Génération After.
Nicolas Villas.
Toujours bien accompagné avec nos drôles de dames, Paulo Breitner, Johan Crochet, Julien Laurence et Fred Hermel. 32-16 pour poser vos questions à nos drôles de dames. Ce sera à partir de 21h45. Et on est en train de faire une spéciale promu et relégué. Et alors, le promu qui a fait beaucoup parler ce week-end en Espagne, il ne monte pas en Liga, mais en D2 espagnol, un club historique champion de Liga en 2000, le Deportivo La Corogne. Alors, Fred, c'était un truc assez dingue d'ailleurs, puisque le Riazor était blindé pour un match face au Barça B, avec un scénario de folie d'ailleurs.
Alors déjà, pour vous expliquer l'importance de ce match et de ce qu'est encore le Deportivo, c'est-à-dire qu'à l'heure où jouait le Deportivo contre le Barça B, c'est-à-dire c'est en Primera Federación, c'est-à-dire c'est en 3e division, c'est pas totalement professionnel, c'est-à-dire c'est plus la Liga. La Liga, c'est Liga, la première division.
C'est la Fédé qui
en fait. C'est la Fédé, alors il y a plein de groupes, etc. Enfin bref, c'est par zone géographique, etc. Et il y avait des matchs de première division qui se jouaient, mais sur les sites de AC Marca, la une,
c'était le
Déport. C'est-à-dire que pour le suivi du match, quand vous cliquez sur AC Marca, vous aviez le Déport Barça B, équipe de 3e division. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que cette montée en 2e division intervient après 4 ans en 3e division. Hein, c'est... Voilà, un club qui, il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, 93-94, c'est à l'époque du super Déport, vous vous souvenez, avec tous ces grands joueurs, Bebeto, Mauro Silva, Fran,
Jalminia,
tous ces joueurs, enfin c'était c'est là.
Nordin Naibet.
Ah oui, Nordin Naibet, défenseur marocain.
Quel joueur, magnifique. Il joue à Nantes aussi.
Et en fait, c'est la fois où le Déport a failli remporter son premier titre avec un penalty manqué par le Serbe Djukic contre Valence à la dernière minute.
Ah, c'est ouf ça.
Il manque le penalty et le Barça est champion. C'est-à-dire que 30 ans après, presque jour pour jour, vous avez une joie différente. Alors, c'est une joie, c'est pas gagner le championnat, c'est monter de 3e à 2e division, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver le foot professionnel. Et ça change tout. Avec le Riazor, ça où je suis allé des dizaines de fois, qui est un stade tout près de la mer, enfin voilà, c'est 32 000 places, et c'était totalement plein. Ça faisait déjà beaucoup de matchs cette saison où c'était ouais. plein. Mais là, il y a eu la victoire contre le Barça B.
Et le buteur, il faut qu'on en parle.
C'est Lucas Pérez. Ouais, alors Lucas Pérez, qui a eu une petite carrière en Angleterre, c'était un espoir du foot espagnol qui n'a pas réussi et qui, en décembre 2022, était à Cadix, donc en première division. Il décide d'aller au Déport en Détroit. C'est-à-dire pour aider son club.
Lui qui est né à La Corogne, hein, c'est un vrai.
Il vient de Artecho. Enfin, il a ouais. commencé à Artecho, qui est un petit club des environs de la province de La Corogne, où sont passés pas mal de joueurs. Et c'est son club de cœur, le club de ses grands-parents. Enfin voilà, c'est vraiment un attachement. Donc les gens disaient, ils le rappelaient après le match, les gens disaient que j'étais fou de passer de la première division à la deuxième division, à la troisième division. Et en plus, il a payé la moitié de la clause.
Ah, c'est ouf. Hein. Il a payé 500 000 balles de sa poche pour payer
cette clause. C'était 1 million. Alors le Déport s'est retrouvé là à cause de mauvaise gestion. Hein. Ouais. C'est une question d'argent. Hein. Donc vous avez Lucas Pérez qui a payé la moitié de sa clause, 1,5 million d'euros, pour pouvoir se libérer de son contrat de Cadix et rejoindre le Deportivo. Et là, c'est lui qui, donc un an et demi après, met le but d'un superbe coup franc. Ouais. Qui permet la montée. Et après, et ça change tout, parce que quand tu es en D2, tu redeviens professionnel totalement, tu as tout l'argent de la Liga qui arrive, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Ouais. Donc, et sincèrement, c'est. Moi-même, je ne vais pas dire que j'étais ému, mais ça m'a fait quelque chose, parce que le Déport a été parmi ces clubs que j'ai suivi au quotidien pendant toute ma vie en Espagne, parce que c'était l'un des clubs majeurs du football espagnol, le Déport, avec des joueurs extraordinaires qui sont passés là, de grandes aventures. Et donc le fait de retrouver le Deportivo en D2 est un véritable événement en Espagne. À tel point que j'ai reçu sur Instagram mais 2-3 messages de gens. Ah Fred, ça serait bien que tu nous parles du départ.
C'est marrant, on est connecté alors.
C'est marrant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui même en France se sont intéressés au Deportivo pour, parce qu'il y a eu le super Deport, quoi, qui était une clip avec Arsenio Iglesias, le vieil entraîneur qu'on appelle Brujo, le sorcier. Le sorcier. Quoi, voilà, parce que vous savez, toutes ces zones-là, c'est les zones des sorcières.
Oui, oui. Il y en a beaucoup dans le nord du Portugal.
C'est vraiment une zone où on croit aux
Squelos de Las Megas. D'ailleurs, dans les affaires.
On croit aux sorciers, aux sorcières.
Dans les affaires de corruption présumées qu'il y a eu au Portugal, la police a fouillé notamment les comptes du FC Porto et ils ont trouvé des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été faites à des sorciers du nord de l'Espagne et du nord du Portugal.
La famille Villas.
Villas-Boas d'ailleurs. Comme par hasard, qui c'est le nouveau président? Comment
exactement.
Il s'appelle
André
Villas-Boas. Salut cousin.
Mais sérieux, ils y croient vraiment et tout. Et donc, on va le Deportivo. Franchement, ne plus avoir le Deportivo en.
Mais c'est fou, ça veut dire que le romantisme existe encore.
Ouais, bien sûr, ouais, ça existe
beau.
Encore.
Eh,
ouais,
c'est
ouais.
Beau, non?
Non, mais sérieux.
Bah, c'est pas avec tes Indonésiens qu'on trouve ça.
C'est le manque de romantisme qui a mis le Deport dans cette situation.
Ouais.
Parce que jamais le Deport aurait dû se retrouver en Détroit.
Ouais.
C'est-à-dire que, voilà.
Moi, j'ai une théorie pour ça. Pour rester dans la théorie du sorcier. Il y a eu une saison où ils ont joué avec des rayures horizontales. C'est l'année où ils sont descendus, justement.
Horrible. Et puis il y avait le maillot orange quand ils jouent contre
Monaco.
Ouais,
mais ça, limite orange, c'est historique.
Mais vous souvenez le maillot bien horrible qui joue contre Monaco?
Oui, mais c'est un maillot extérieur, on s'en fout.
Mais il était tellement immonde.
C'est vrai qu'il était dégueulasse.
Ils avaient pris combien, Monaco? Je sais plus.
Bah, 7, non?
Ils
avaient 8. 8
ouais, 3, c'est ça, 8.
Ouais,
ce qui fait ouf. Qu'après, justement, avec ces trucs de sorcier, ils avaient brûlé le maillot sur la plage.
Voilà, c'est une belle histoire, ça. Tiens, petit quiz surprise, parce qu'il y en a une pour vous aussi. Quelle est la particularité du Deport? Tout le monde joue. Il y a un truc qui se passe avec le Deportivo La Corogne. Je l'ai fait dans la rédac, on n'a pas fini de jouer avec d'ailleurs avec Jimmy Brown. Vous pouvez poser des questions, je peux vous dire oui, je peux vous dire non.
Attends, vas-y.
Il y a un truc particulier qu'a le Deportivo La Corogne. Ils ont un truc particulier lié à leur histoire, que les qui sont particuliers justement.
Différents des autres, mais historiques.
Historiques, ouais.
D'un point de vue footballistique ou social.
Ils sont pionniers, on va dire. Un truc qui est lié à leur histoire, à leur identité, qui font qu'ils sont pionniers.
Fondés par des étrangers.
Ah alors, bah non,
c'est pas.
En Espagne.
C'est pas vraiment ça, mais c'est un rapport avec la création du club. Qui est en 1908, je crois, un truc comme ça, au début du XXe siècle. Il y a un truc qui se passe qui fait que c'est vraiment un club pionnier par rapport aux autres clubs espagnols.
Ils ouvrent l'autorisation des socios aux étrangers.
Non, c'est pas ça.
C'est quelque chose avec une femme, une présence féminine.
Non,
c'est
plus institutionnel que ça, plus statutaire, je dirais.
Bah, il fallait être galicien pour pouvoir.
Non plus, ça n'a pas vraiment de lien avec ça. D'ailleurs, c'est au contraire, c'est plutôt un signe d'ouverture plutôt que de.
Ah, d'ouverture.
Ah, son premier président n'était pas espagnol.
Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui est lié au nom du club. Comment s'appelle le club?
Club Omnisport?
Non. Comment ça, le nom en complet du club, c'est quoi?
Bah, c'est le Real Club Deportivo.
Voilà, c'est un rapport avec ça.
Ah, c'est le premier à avoir eu
l'appellation
royale.
Absolument.
L'appellation royale.
Voilà, Alfonso XIII, qui était le roi d'Espagne, qui adorait le football, qui a voulu l'instrumentaliser d'une certaine façon. Il a été fait président d'honneur par les fondateurs du club. Voilà. Et en signe de reconnaissance, il a dit je vous donne l'appellation réelle. Et c'est le premier club espagnol qui s'appelle.
Et aujourd'hui, je crois que, je dis une connerie, mais trois quarts des clubs espagnols s'appellent Real quelque chose.
Absolument.
Et Alfonso XIII, qui était, pour ne pas dire de bêtises, l'arrière-grand-père du roi actuel.
C'est comme la Légion d'honneur, ça, on donne à tout le monde, ça.
Il y en a qui l'ont pas,
ouais,
quand même.
Ouais,
y en a.
Quand même. Et vous savez. Non, je vais pas, moi j'ai le mérite, j'ai pas la Légion d'honneur, c'est bien.
Et tu t'appelles pas Real, toi.
Et vous savez que le roi d'Espagne est français.
Ah oui?
Alphonse XIII est un français.
Ah, j'en sais rien, moi.
Et tous les descendants de Juan Carlos sont français.
Je suis pas bien connu non plus, moi.
Les remplaçants, frérot.
Ce sont des bonbons. Ce sont des bonbons.
C'est un whisky d'ailleurs.
Bien sûr. Depuis Philippe V, petit-fils de Louis XIV, qui a prôné.
Soir avec les drôles de dames.
Mais non, mais sérieux, mais on n'est pas
con.
Donc en fait, pour aller, le royal, c'était un royal bourbon.
Et ben voilà, on y est. T'as c'est beau. Hein. Tu vois, on apprend des trucs avec les drôles de dames. Tu savais ça, qu'Alphonse XIII, il était français?
Pas du tout.
Non, mais tous. Non, mais c'est depuis Philippe V.
Bien sûr,
la monarchie espagnole est française, c'est bourbon. Ce sont les descendants de Louis XIV.
Dans un instant, on va poursuivre notre histoire de promu et de relégué. Non, mais j'adore, Fredo, vraiment, je t'en jure que j'aime.
C'est qu'il était promu.
On va rénover l'orléanisme encore en politique bientôt.
Là. Ah ouais, tiens, avant de marquer une petite pause.
T'es plutôt bonbon, Orléans, toi, Polo?
Whisky, j'aime bien. Ouais,
ouais, pareil. Mais quel pays plutôt? Avec modération, bien sûr. Hein, mais...
Oui, tout à fait. Oui.
Quel pays plutôt, Polo?
Alors, si, ça dépend comment tu le prononces. Whisky ou whisky?
Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes boire, surtout, c'est ça qui m'intéresse, mais.
Ah, du bon whisky.
Bidon.
Donc le japonais.
Pas japonais,
non, le japonais,
japonais, japonais, japonais, japonais, voilà, merci.
Japonais.
Allez, gâteau. Voilà. Allez, musique italienne, respiration. Bam, andiamo. C'est vraiment un lover, ce gars.
Il est amoureux en ce moment, je sens qu'il est amoureux.
Ouais. Si je peux,
vu les dernières musiques que j'avais mises,
c'était quoi en ce moment?
J'ai mis.
Il a découvert le football la semaine dernière.
Il est mignon ce petit stade.
Alors ça, c'est petite musique en dédicace.
Gigi D'Alessio.
Ça sent le Napoli, ça.
Exactement, Dove Sei, Gigi D'Alessio, l'un des chanteurs napolitains les plus connus. Et pour parler du Napoli, parce que le Napoli, c'est catastrophique, parce qu'il n'y a plus rien qui va, parce que le match contre Bologne était une catastrophe absolue, parce que les joueurs n'ont encore pas parlé à la presse après le match, ça doit faire la 25e fois de la saison. Un coup, c'est le président qui ne veut pas, un coup, c'est les joueurs, un coup, c'est l'entraîneur. Ça devient assez lamentable, c'est vraiment un comportement de petit club et non pas un comportement d'un champion en titre. Sur le terrain, il se passe plus grand-chose, d'où le titre Dove Sei, qui veut dire « Où es-tu ?». On aimerait bien retrouver un petit peu le Napoli de la saison passée, ou en tout cas un Napoli un petit peu plus digne dans ses prestations footballistiques.
Est-ce qu'on ne trouve pas le Napoli normal, entre guillemets, finalement?
Non,
c'est une question.
C'est immonde, là. C'est vilain, tu sens que les joueurs, ils ont totalement abandonné, ils n'ont plus envie. Donc, est-ce qu'on aura un Aurelio De Laurentiis qui fera exploser le bouton rouge encore une fois cet été pour faire une grosse revue d'effectifs, changement d'entraîneur, ça on sait qu'il y aura, mais de directeur sportif aussi, mais est-ce qu'on aura de très gros changements ou pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que même des joueurs qui avaient été exemplaires la saison passée, comme Di Lorenzo, etc., là, on sent vraiment qu'ils sont au bout du rouleau. Et d'ailleurs, le Napoli, s'il gagne les deux derniers matchs, atteindra les 57 points. Ce sera le pire total de l'histoire du football italien pour un champion.
Ah ouais ? Ah ouais, c'est bon ça ?
Parce qu'on a fait le rapport avec le Torino post-catastrophe Superga. Et c'est la victoire à 2 points. Mais quand on fait le rapport,
le ratio
d'arithmétique.
Ouais.
Arithmétique. On a le pire champion en titre.
Et voilà, c'est aussi ça les drôles de dames. On apprend même les mathématiques. Il y a les promus, mais il y a aussi les relégués dont il va être question dans un instant avec nos drôles de dames. En première ligue, c'est plié depuis ce week-end. Enfin, pas totalement au niveau arithmético. Ce week-end et en Bundesliga, ce sera très excitant pour la dernière journée. Explication de Juju et Polo juste après ça sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After. En ce moment, envoyez roux par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roux et pas argent par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC, dès que vous entendez.
Envoyez roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS max.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner.
À tous ceux qui hésitent entre les rigatoni, les capellini, les tortiglioni, c'est le même goût, non? À ceux qui cherchent la différence entre les spaghettis numéro 5 et les numéro 7, et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de numéro 6. Et à ceux qui vont repartir avec un paquet de coquillettes et basta. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet d'un kilo de pâtes Barilla à 1,98€, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 mai, 2 kilos soit 1,39€ le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tchut-tchut. Moi j'entends tchut-tchut. Je pleure, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Appel à candidature, Laure Closier.
La BFM Academy revient. Vous êtes entrepreneur, vous croyez en votre projet, vous postulez sur bfmacademy.fr, vous venez pitcher en région et vous avez 150 000 euros d'espace publicitaire à gagner à la clé. On compte sur vous.
Jusqu'au 16 juin, déposez votre candidature pour la nouvelle saison de la BFM Academy sur bfmacademy.fr. Le nouveau spectacle de Mesmer, 13 Hertz avec RMC. Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent. Actuellement en tournée partout en France. Infos et réservations sur mesmer.ca. 13 Hertz avec RMC.
Mardi 21 mai, au Golf Park Robert Hersant, c'est le Tea Break avec RMC. Une journée caritative historique avec la présence de médaillés olympiques. Au programme, une compétition amicale de golf, des enchères caritatives d'objets de sport mythiques et une voiture à gagner avec un trou en un. Le Tea Break, mardi 21 mai avec RMC.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Bah, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à demain, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et notre dame Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet. Alors on est en train de faire une spéciale promue et reléguée parce que ça commence à se dégager un petit peu dans vos championnats respectifs. On va parler des relégués.
Ça y est.
Avant cela.
Et ça, ça rigole pas.
Et ça, c'est le moment.
Ça régale.
Ça, c'est le moment pour tenter de gagner jusqu'à 20 000 euros grâce à RMC. Vous envoyez à partir de maintenant Roux, R-O-U-E, au 7-32-16. Roux, au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour gagner 20 000 euros, voire peut-être 100 000 d'ailleurs, qui sont en jeu. Bonne chance à vous. 5 minutes à partir de maintenant, vous envoyez Roux par SMS au 7-32-16. Alors, pour parler des relégués en première ligue, c'est plié, mon juju. Sheffield United, Burnley. Alors, Luton Town, mathématiquement, c'est pas fait, mais il faudrait un miracle pour qu'ils se maintiennent lors de la dernière journée. Et alors, il y a un truc, je suis allé checker quand même, les trois promus en gros vont être relégués, les trois promus de la saison dernière. Ça arrive pas si souvent que ça arrivait qu'une fois dans l'histoire de la première ligue depuis 92-93 hein, quand même.
Ouais, et aucun des trois d'ailleurs que tu as cité là vont atteindre les 30 points cette saison.
Ah, ça, en revanche,
même avec le dernier match qui reste, 30 points, même pas 30 points en 38 journées de championnat, c'est quand même assez incroyable. Il y a plusieurs choses, plusieurs explications. Je pense qu'il y a déjà le niveau de cette première ligue, qui est, on l'a déjà dit, hein, l'écart entre souvent entre nos deuxièmes et nos premières divisions sont importants, mais là encore plus entre le Championship et la première ligue. Et quand t'es un tout petit comme Luton, une équipe comme Burnley qui a eu une bonne période en première ligue, mais pour qui c'était plus compliqué après, et Sheffield United qui fait le yo-yo finalement parce qu'ils n'ont jamais assez de talent pour pouvoir s'installer durablement en première ligue, c'est forcément compliqué. Après, si on m'avait dit en début de saison, c'est les trois que je pensais qu'ils allaient descendre déjà en début de saison, mais si on m'avait dit que Sheffield United par exemple allait encaisser 101 buts avec encore un match à jouer, hein, 101 buts, record absolu de l'histoire de la première ligue, et j'ai essayé de regarder dans toute l'histoire du football anglais, de l'élite anglaise. C'est compliqué de retrouver un petit peu dans les années 40, 50, 30, etc. Mais je pense que ça doit être aussi pas très loin d'un record, si ce n'est le record. Quand tu penses que Burnley ne gagne que 5 matchs, Luton 6 matchs. Alors Luton, ils ont fait un petit peu illusion, ils se sont battus, ils avaient quand même... C'est une histoire assez incroyable. Encore une fois, Luton, ils n'ont rien à faire en Première Ligue. Ils sont finalement pas si loin que ça de se maintenir. Mais c'est vrai que c'était assez décevant finalement de la part de ces trois promus-là. Et peut-être que Au final, c'est que si t'as pas déjà un effectif quasiment deux premières ligues comme Leicester par exemple qui remonte, comme Leeds et Southampton qui pourraient remonter aussi via les playoffs de Championship, sauf si tu dépenses beaucoup et très bien, c'est très compliqué finalement.
Ouais, c'est dur en plus hein, le Championship. Est-ce que ça fait débat justement en première ligue? On a souvent parlé d'ailleurs de la différence des dotations entre l'APL et le Championship. Ça fait débat, j'imagine, ça en Angleterre, non? Parce qu'on a l'impression que c'est impossible, tu viens de le dire, pour un club qui monte, de se maintenir. C'est très compliqué. Alors je disais, ça arrive rarement que les promus soient relégués, mais l'année dernière, et ça en revanche c'est assez rare aussi, il n'y a aucun promu qui avait été relégué la saison suivante, mais souvent c'est 2 sur 3 quand même la moyenne.
2 sur 3, ouais. Ouais, c'est ça en général, c'est ça. Alors on est en pleine renégociation, discussion entre les clubs de première ligue et les trois divisions inférieures, donc aussi professionnelles, mais d'en dessous. C'est ce que les Anglais appellent leur pyramide. C'est-à-dire que la première ligue, finalement, ce cher mot adéquat, nourrit, on va dire dans un sens, financièrement en tout cas, les clubs d'en dessous. Donc d'où l'idée de la pyramide. Donc t'es tout en haut et donc tu fais ruisseler l'argent, tu fais descendre l'argent en Championship, en Ligue 1, en Ligue 2. Les clubs de ces trois divisions inférieures voudraient plus d'argent de la part de la première ligue, et c'est là où ils sont pas vraiment d'accord. Pourquoi ils veulent plus d'argent? Pour que eux soient plus compétitifs, et dans le cas d'une montée, même que ce soit de 4e à 3e division, 3e à 2e et donc 2e à 1e, qu'ils puissent pouvoir s'installer plus durablement dans ces divisions-là et pas faire le yo-yo comme c'est souvent le cas, mais on le voit aussi de la 2e à la 3e division, par exemple, ou 3e à 4e division. Alors, on a des exemples qui sont aussi des exceptions comme Ipswich, qui on avait parlé un petit peu la semaine dernière, on en reparlera tout à l'heure, qui fait deux montées d'affilée, ce qui est incroyable. Wrexham qui fait deux montées d'affilée aussi, de 5e à 4e, 4e à 3e maintenant cette année-là, mais ils ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'Ipswich. Ipswich, c'est un peu l'anomalie finalement, assez incroyable, très très bon entraîneur, très jeune, avec une vraie philosophie, pas mal de réussite, mais quand même ça marche très très bien pour eux. Sinon, c'est Leicester, ça va être Leeds ou Southampton, j'en suis quasiment sûr pour la finale à Wembley, pour la troisième équipe qui montera. Voilà, c'est aussi comme ça, malheureusement, la réalité de la Première Ligue aujourd'hui.
Julien, excuse-moi de te couper, Nico.
Non, vas-y.
Est-ce que finalement, quand on regarde sur le long terme les championnats européens, la hiérarchie, finalement, n'est pas si mauvaise que ça? Est-ce qu'il y a ce genre de débat en Allemagne? En Allemagne, il y en a beaucoup. Mais en Angleterre, en se disant, les clubs qui disent on voudrait plus d'argent pour monter, mais est-ce que finalement, la question de la taille critique des clubs et la taille tout court des personnes qui viennent au stade et tout ça, ne représente pas finalement ce qu'est le football anglais aujourd'hui?
Si, je pense que tu as raison, mais les clubs de Premier League leur disent, mais combien d'argent vous voulez qu'on vous donne? Pourquoi est-ce que ce serait à nous, finalement, de donner 1 milliard, 1 milliard 5 chaque année à ces clubs, donc des trois divisions inférieures, Championship, League 1, League 2? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de tout cet argent-là? Eux disent, oui, mais vous gagnez tellement d'argent, finalement, vous êtes bien trop fort pour nous autres qui sont aussi professionnels. On a aussi des joueurs, on a des staffs, on a des gens qui travaillent dans les clubs, qui font la même chose que vous en Première Ligue, mais à notre niveau à nous, on a besoin de votre argent. Et les clubs de Première Ligue disent, mais pourquoi, jusqu'où on va aller finalement? Parce que si on donne maintenant 1 milliard, dans 5 ans vous voudrez 1 milliard 2, dans 10 ans 1 milliard 5, et au final, est-ce que c'est comme ça qu'on s'en sortira finalement? Et pour revenir à ta question, moi je ne sais pas si c'est très viable, je ne sais pas si c'est ça l'idée finalement à suivre.
Parce que moi, j'ai deux exemples. En Allemagne, moi, je considère qu'être un championnat, même si j'adore le principe d'un championnat à 18 aux première et deuxième divisions, je considère que quand je vois les tailles des clubs allemands, la troisième division, c'est le cimetière des éléphants. C'est des clubs qui ont encore 20 000, 25 000 spectateurs de moyenne. Les mecs, il y a quasiment pas de droit télé, il y a rien du tout. C'est très compliqué. Mais tu sens que ça pourrait être professionnel vraiment au sens européen du terme. Mais j'ai les contre-exemples de millionnaires ou milliardaires en Suisse, par exemple, qui, pour se faire plaisir, s'achètent une danseuse où il y a 200 spectateurs de moyenne dans le stade, pour le faire monter à 400 et 500 spectateurs de moyenne, et ils veulent être professionnels.
Après, tu as une grosse différence, justement, parce que tu parlais de la répartition des richesses. C'est que, par exemple, on reprend l'exemple de Sheffield, qui finit bon dernier avec 16 points en PL. Il y a 3 clubs professionnels, voire 4 à Sheffield, qui n'est pas une immense ville. En Allemagne, on sait que c'est plus concentré, tu vois. T'as, le club de Munich, le grand, c'est le Bavarois de Munich. Tu vois, il y a même le nom du land de la région qui est accolé.
Mais oui, mais justement, tu peux critiquer Munich 1860 parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais ils ont vocation à être au minimum en seconde division. Ouais. Et ça serait logique d'ailleurs. Donc après, on peut leur dire ils ne travaillent pas bien, l'actionnaire majoritaire ne fonctionne pas bien, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est est-ce que les championnats représentent en fait la taille des clubs? On en a parlé une fois, Nico. 18 clubs au Portugal, 18 clubs en Bundesliga. Il y a un truc qui ne va pas. Donc ces choses-là font que.
Je m'interroge. Non, ce sera un bon débat à avoir, un de ces quatre d'ailleurs. C'est pas mal, c'est un très très bon sujet d'ailleurs à avoir aussi par rapport à la taille critique des pays et au marché d'ailleurs qui a. Comment Madrid s'apprête à accueillir Mbappé, la crise historique de Manchester United, de modèle Atalanta et la surprise Bologne? Et vos questions également pour nos drôles de dames au 32-16. On revient dans un instant sur RMC. À tout de suite.
Génération After.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
Les grandes gueules, ils abordent vraiment tous les sujets, et même des sujets qu'ils n'ont pas abordés sur d'autres radios ou dans d'autres médias. C'est une façon de débattre qui n'est vraiment pas habituelle.
Pendant 3 heures, des Français avec des très grandes gueules débattent autour d'Alain Marchal et Olivier Truchot. Sans langue de bois.
Les grandes gueules, du lundi au vendredi, 9h midi sur RMC. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche.
Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offres disponibles dans les magasins participants.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tchut-tchut. Moi j'entends tchut-tchut. Je pleure, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
17h56. 17h58.
L'enfer, le périph.
18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380 euros par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500 euros, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 20.